commencer avec les Bibles. Donc, merci de lever la main si vous n'avez pas de Bible. Et on peut vous en donner une. Okay. Et puis, vous pouvez chercher Actes 25. Actes 25. Et nous avons quatre personnes qui vont nous aider à lire ce texte. Donc, j'invite d'abord Luc à venir devant nous. OK? Alors, je vous présente Luc, Luc 7. Luc 7. OK. Luc, c'est l'écrivain des Actes des apôtres. OK? C'est Luc qui a écrit l'évangile de Luc, qui est la biographie de Jésus, mais puis il a écrit la deuxième partie, ce qui se passe par la suite. Et Luc raconte surtout comment l'évangile parcourt Jérusalem, la Judée, la Samarie et continue jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, c'est la grande histoire des Actes des apôtres. OK? Et lorsque vous lisez Actes, c'est intéressant parce que vers la fin, vous commencez à lire nous. Paul et nous. Nous sommes allés là. Nous avons pris le bateau. Parce qu'en fait, Luc, il était un compagnon de Paul. Okay. Et si vous lisez les chapitres 22, 23, 24, et puis les chapitres plus tard, c'est Luc qui voyage avec Paul. Ensuite, Festus. Ici, nous avons Festus. Festus est le gouverneur romain en Judée. Donc, il est celui qui représente l'empereur romain en Judée. Il vient de prendre le pouvoir, ok? Et son prédécesseur s'appelle Félix. Et c'est Félix qui avait laissé Paul en prison pendant 2 ans. Donc j'invite Paul à venir devant nous, ok? Je vous présente Paul. Nous allons découvrir plus sur l'identité de Paul ce soir. Mais ça vaut la peine de dire que nous sommes à la fin de la troisième voyage missionnaire de Paul. Okay? Nous l'avons vu dans la vidéo. Okay? Donc Paul, il a commencé ici, il a fait tout ça. Et puis, il est allé à Tyr. Et puis, Ptolemaïs, Césarée, et finalement, Judée, à Jérusalem, pardon. À Jérusalem, il y avait un meute, ok? Les soldats romains ont protégé Paul, et puis, avec 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers, Paul est allé à Césarée, il était en prison pendant 2 ans. OK? Ça va jusqu'à là? OK? Et puis il y a un dernier personnage qui s'appelle Agrippa. Je vous invite à... Je vous invite à faire la révérence vers le roi. Agrippa, ok. Le roi Agrippa, c'était le roi de la région au nord de Jérusalem, Césarée et Israël. Ok. Et je vous laisse lire. Merci.
3 jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem.
Ah, pardon, c'est Actes 25. Actes chapitre 25. Excuse-moi.
3 jours après Après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils lui demandèrent avec insistance la faveur de le faire venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit alors que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait bientôt repartir.
Que ceux parmi vous qui sont compétents descendent avec moi, et si cet homme a commis une faute, qu'il l'accuse.
Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il redescendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'ils n'étaient pas en mesure de prouver. Paul présenta sa défense en disant :
Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur.
Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul :
Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence ?
Paul dit :
C'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur.
Alors Festus répondit, après délibération avec le conseil.
Tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur.
Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa le cas de Paul au roi et dit
« Il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Lorsque j'étais à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en demandant sa condamnation. J'aurais répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme à la mort avant que l'accusé n'ait été confronté avec ses accusateurs et qu'il n'ait eu l'occasion de se défendre contre leurs accusations. Ils sont donc venus ici, et sans plus attendre, j'ai siégé le lendemain au tribunal en donnant l'ordre d'amener cet homme. Les accusateurs se sont alors présentés, mais ils ne l'ont chargé d'aucun des délits que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que sa cause soit portée à la connaissance d'Auguste. J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à l'empereur.
Agrippa dit à Festus :
Je voudrais entendre moi-même cet homme.
Demain, tu l'entendras,
répondit-il. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en garde et entrèrent dans la salle d'audience avec les commandants romains et les hommes importants de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit :
Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme, au sujet duquel toute la foule des Juifs s'est adressée à moi, tant à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. Or, pour ma part, j'ai constaté qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais comme il en a appelé lui-même à Auguste, j'ai décidé de le faire partir. Cependant, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. En effet, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse.
Agrippa dit à Paul :
Il t'est permis de parler pour ta défense.
Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi :
Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour, avec ardeur, un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi, et mes compagnons de route, une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie à leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dirai rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs.
Alors qu'il parlait ainsi, pour sa défense, Festus dit à Paul :
Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait déraisonner !
Je ne suis pas fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits. Je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois.
Agrippa dit à Paul.
Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien.
Paul répondit.
Que ce soit pour bientôt, que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi. À l'exception de ses chèvres.
Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres :
Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison.
Agrippa dit à Festus :
Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à la foi.
Alors, nous sommes dans Actes 25. Ok, toutes les meilleures prédications en trois titres. Moi, j'en ai quatre. Premier titre. Notre premier titre, un billet simple pour Rome. Et comme un bon nouveau président, après les présidentielles, Festus va voir les autorités juives. Les autorités dont il est le chef. Il va pour discuter avec eux. Et le sujet le plus important pour les autorités juives à Jérusalem, c'est Paul. 2 ans au prison n'a rien fait pour adoucir la haine ni le complot de tuer Paul. Le verset 2 du chapitre 25, les chefs des prêtres et les personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils lui demandèrent avec insistance la faveur de le faire venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens à panse pour le tuer en chemin. Merci de... Ouais, merci de me corriger après. Festus veut bien suivre la justice romaine et donc il propose de faire le procès à Césarée. Et 8 ou 10 jours plus tard, Festus rentre chez lui et le procès a lieu chez lui. Alors le verset 7, quand celui-ci fut arrivé, les Juifs venus de Jérusalem l'enterrèrent et portaient contre lui de nombreuses et graves accusations qui n'étaient pas en mesure de prouver. Nous n'avons pas les détails des accusations des Juifs, mais de la défense de Paul, au verset 8, nous voyons qu'ils accusaient Paul d'avoir commis des fautes contre la loi juive, contre le temple et contre l'Empire. Alors, Festus, il voit que les accusations n'ont rien à voir avec l'Empire romain. Et donc, voulant se débarrasser de cette situation un petit peu embarrassante, voulant être un bon politique et faire plaire aux autorités juives, il propose de partir à Jérusalem avec Paul pour finir le procès à Jérusalem. Alors, dans ce procès, est-ce que vous avez remarqué les ressemblances au procès de Jésus? Plus tard, vous pouvez lire le procès de Jésus à la fin de l'évangile de Luc chez vous. Mais est-ce que vous avez remarqué les ressemblances? Il y a des accusations qu'il ne pouvait pas prouver. Il y avait des accusations contre le temple, la loi et l'Empire, tout à fait les accusations qui étaient mises contre Jésus. Il y a l'objectif de tuer le prisonnier pour Paul ainsi que pour Jésus. Il y a un procès devant les autorités romaines qui constate l'innocence du prisonnier. Il y a un gouverneur romain qui veut plaire aux Juifs. Et il y a un prisonnier qui se soumet aux autorités. C'est intéressant, n'est-ce pas? Paul, il se soumet aux autorités. Le verset 11, « Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. » Des ressemblances au procès de Jésus. Parce que Paul, il suit les traces de son sauveur. Paul suit les traces de son sauveur et de son maître. Et tous les chrétiens, vous et moi, nous devons suivre les traces de notre sauveur. Tel maître, tel serviteur. Et alors ici, Paul achète son billet simple, un billet simple, pour aller à Rome. Il fait appel à l'empereur comme chaque citoyen romain avait le droit de faire, le droit d'être entendu et jugé par l'empereur lui-même. Et donc Paul se lance sur une trajectoire vers Rome. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul fait appel à l'empereur? Il avait eu 2 ans pour réfléchir sur sa stratégie. Pourquoi faire appel à l'empereur? Paul, peut-être, cherche-t-il un procès impartiel devant l'empereur. Il savait qu'il n'allait pas recevoir un procès impartiel à Jérusalem, mais à Rome, ça devrait être impartiel. Ou Paul veut-il chercher un statut officiel pour la jeune église chrétienne en discutant de l'évangile, en discutant de l'église chrétienne à Rome? Mais dans Actes 23, le verset 11, c'était dans la vidéo, Actes 23, le verset 11, Jésus dit à Paul qu'il témoignerait de Jésus à Rome. Et ici, Paul voit et Paul saisit l'opportunité pour aller à Rome, pour poursuivre les plans de Dieu, pour annoncer l'évangile devant l'empereur lui-même, pour aller à Rome, pour que la bonne nouvelle de Jésus franchisse encore une étape de plus vers les extrémités de la terre, comme nous avons dit. Actes, c'est l'évangile qui va à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et de Rome, le centre du monde à cette époque, l'évangile peut continuer jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Paul achète un billet simple pour Rome, et de Rome jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, est toujours en train d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le week-end dernier, quelques-uns de nous sont allés en Hongrie pour le congrès européen des GBU. Et c'était super. Et nous avons rencontré des chrétiens qui viennent de toute l'Europe. Il y avait même des Américains, des Canadiens. J'ai rencontré une Chilienne. Et en fait, l'Europe est beaucoup plus large de ce qu'on pense. Il n'y avait pas seulement des Allemands, des Français, des Italiens et des Espagnols. Ils avaient des Croatiens, des Serbiens, des Russes, des Grecs. Des gens de loin. Il y avait même un Français qui fait son année Erasmus en Slovaquie et qui fait partie des GBU slovaques. Et puis au GBU de Marne-la-Vallée, nous avons fait une soirée à Crêpes hier soir. Il y avait des Français, une Brésilienne, un étudiant de la Côte d'Ivoire, un étudiant de Togo et un Britannique. L'évangile va jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est toujours à l'œuvre pour que son évangile va aux extrémités de la terre. Et comme Paul a choisi d'aller à Rome pour faire cela, Dieu nous utilise dans son projet, pour que la bonne nouvelle de Jésus va jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, moi je suis super content de faire partie des GBU à Paris. Je suis super content qu'il y ait une équipe UFES à Paris. Pourquoi? Parce que d'ici, de Paris, okay, l'évangile peut aller jusqu'aux extrémités de la France. Okay? Il me semble que tout le monde est obligé, un jour ou un autre, de passer par Paris. Soit pour les études, soit pour un stage, soit pour le premier emploi. Okay? En fait, nous avons à Paris les extrémités de la France, mais aussi de Paris, nous pouvons aller jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'en fait, les extrémités de la terre viennent à Paris. Il y a 600 000 étudiants à Paris, et on me dit qu'un tiers sont des étudiants étrangers. Alors, nous n'avons pas besoin de partir en mission, parce qu'en fait, la mission vient à nous à Paris. Donc à Paris, nous avons l'opportunité de partager l'évangile avec toute la France et même toute la terre. Et souvent, des étudiants qui viennent des pays fermés chez eux à l'évangile. Et donc, quelles sont les nationalités représentées dans votre classe? Quelles sont les nationalités de vos camarades de classe? Et comment est-ce que vous pouvez partager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Ben, ensuite, nous avons deux politiques intéressées. Et maintenant, c'est le roi Agrippa qui vient rendre visite à Festus. C'est un peu comme si Barack Obama venait féliciter le nouveau président de la République. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Et les deux politiques discutent, et Festus parle de la situation de Paul. Et les deux politiques sont bien intéressés par cette situation. Et ils décident d'entendre Paul. Et alors, Paul, il reçoit l'opportunité de témoigner devant le roi Agrippa, la reine Bérénice. Et Paul saisit cette opportunité. Agrippa et Bérénice, ils arrivent en grande pompe. Mais en fait, on pourrait lui demander qui est le plus important dans ce procès. 2000 ans plus tard, nous connaissons bien Paul, mieux qu'Agrippa et Bérénice. Mais en tout cas, Paul saisit cette opportunité de témoigner devant le roi. Jésus, encore une fois, avait dit à Paul qu'il témoignerait devant les grands et le petit, devant des rois. Et ici, cette mission s'accomplit. Alors l'évangile continue à aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais l'évangile va aussi aux extrémités de l'humanité, aux riches et puissants, ainsi qu'aux pauvres et exclus. Parce que tout le monde a besoin de connaître Jésus. Les riches et les pauvres. Les puissants et les exclus. Et Paul était convaincu de cela, donc il a saisi cette opportunité. Alors, il y avait une étudiante anglaise et elle est venue à Paris en septembre pour un camp d'évangélisation avec les GBU. Et donc, elle était devant les portails de Jussieu. Et elle a distribué des invitations aux soirées d'évangélisation. Okay. Et puis, elle a vu un monsieur. Elle a vu un monsieur en costard, cravate. Il a été entouré par des journalistes, par des assistants, par des gardes-corps. Et cette fille, elle s'est convaincue que tout le monde a besoin de connaître Jésus. Et donc, elle a donné à Luc Châtel, le ministre de l'enseignement de la République française, une invitation au Jérusalem. Et elle avait raison. Elle avait bien compris que tout le monde a besoin de Jésus. Luc Châtel n'est pas venu. mais qui sait? Qui sait? Soyons prêts de parler de Jésus avec les grands, ainsi qu'avec les petits, avec les rois, ainsi que avec les personnes à côté de nous, avec nos profs, ainsi qu'avec nos camarades de classe. Paul avait ses convictions profondément dans son cœur, et donc il a saisi cette occasion avec courage. Et ensuite, alors, nous avons trois sections d'un témoignage. Okay. Trois sections d'un témoignage. Okay. Donc, Paul, il saisit cette opportunité de parler devant le roi et devant Festus. Et il se lance. Il se lance devant un homme qui connaît bien la religion juive, et Paul se lance dans son témoignage. Et comme tous les bons témoignages, il y a trois sections. Il y a trois sections. L'avant, le changement et l'après. Dans les versets 4 à 12 du chapitre 26, nous voyons Paul avant de se convertir. Et nous voyons l'ironie qu'en fait Paul, il était comme ces Juifs qui sont en train de le chasser. Okay. Paul faisait exactement ce que ces Juifs sont en train de faire. Le verset 9 du chapitre 26, « Pour ma part, dit Paul, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs de prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. » Alors, que s'est-il passé pour que Paul se trouve de l'autre côté du tribunal? Nous lisons à partir du verset 13. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons? » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur m'a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Alors Paul, il a rencontré le Seigneur Jésus ressuscité. Et il a reçu de Jésus une mission de témoigner de Jésus devant les grands et devant les petits. devant les Juifs et les non-Juifs pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et alors Paul, il a changé direction complètement. Complètement. Et dans les versets 19 à 23, Paul nous raconte ce qui s'est passé après. En obéissance, Paul, il a accompli sa mission. Et c'est à cause de cette mission que les Juifs ont arrêté Paul. Et nous découvrons ici le message de Paul. Le message des promesses de Dieu, des prophéties du Messie qui devait souffrir et puis ressusciter. Un message qui dit que Jésus est ce Messie qui est ressuscité. Et que grâce à Jésus, nous pouvons avoir le pardon des péchés par la foi et le message d'une vie qui change direction pour suivre Jésus. Voici le message que Paul annonce. Et c'est à cause aussi de ce message que Paul n'avait plus honte de ses actes affreux qu'il avait fait avant. Paul avait chassé les chrétiens, il avait témoigné le meurtre des chrétiens. Mais Paul n'avait plus honte de ses actes parce qu'il avait reçu le pardon de Jésus. Et ça vaut la peine toujours de dire, est-ce que vous avez reçu ce message? Connaissez-vous ce pardon de péché pour que nous n'ayons plus de honte aujourd'hui. Et si vous êtes chrétien, quel est votre témoignage? Notre témoignage, ce n'est pas seulement pour les jours de notre baptême à l'église, mais c'est pour tous les jours. Et même si, comme moi, vous avez grandi dans une famille chrétienne, et alors il vous semble que peut-être votre témoignage n'est pas si impressionnant et dramatique que celui de Paul. Le témoignage de chaque chrétien est un miracle de Dieu. Ça témoigne à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Donc, c'est super. Et chaque témoignage du chrétien explique le message, la bonne nouvelle de Jésus. Donc c'est un témoignage incroyable. Et donc dans les groupes de discussion plus tard, vous aurez l'opportunité de partager votre témoignage les uns avec les autres. Mais pour finir, nous avons vu un billet simple pour Rome, deux politiques intéressées, trois sections d'un témoignage. Ensuite, pour finir, on aimerait bien que ça soit quatre. Malheureusement pas quatre, mais deux stratégies d'esquive. Ok. Alors, Festus sent que le témoignage de Paul, en fait, ce n'est plus une défense de Paul, mais maintenant, c'est une défense de la foi chrétienne. Et donc, il interrompt. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Et c'est la première tentative d'esquive. Et comment répondriez-vous à cette question? Tu es fou, Pierre. Ben, comment être si bête, oh, de croire? Ben, quand même, c'est irrationnel de croire, Sina. Qu'est-ce que vous diriez? Encore une fois, vous pouvez discuter plus tard. Mais regardez la réponse de Paul. Regardez la réponse de Paul, les versets 25 à 27. Je ne suis pas fou. Très excellent, Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En fait, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Des paroles de bon sens, des paroles de vérité, des faits qui se sont passés en public, pas en cachette, des faits qui ont fait du bruit pour que tout le monde soit au courant, et des prophéties accomplies. Et surtout dans ce récit, il y a plusieurs références à la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est central ici. C'est central. Et donc, nous parlons des faits de la résurrection de Jésus. Alors, Paul, il n'est pas fou. Il n'est pas fou de croire. Mais c'est une foi basée sur des faits. Deuxième tentative d'esquive. Le verset 27. Paul tourne vers le roi Agrippa, qui est bien enseigné sur la religion juive. Quoi, tu es prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Je ne dis pas très bien. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Est-ce que c'est un peu la moquerie? Est-ce que c'est un peu la moquerie, l'étonnement? Est-ce que Agrippa essaie d'éviter? En fait, il essaie d'éviter la question de Paul. Il essaie de s'éloigner du message de Paul. Il évite de commenter, il évite de dire ce qu'il pense. Et encore une fois, comment répondriez-vous à cette question? Tu essaies de me convertir, dit ton pote. Et je crois que je serais tellement tenté de dire, ah non, 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 jamais, jamais, non, 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 tu crois ce que tu vois. Mais regardez la réponse osée de Paul. C'est tellement osé, n'est-ce pas? Paul répondit, que ce soit pour bientôt et que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Encore une fois, soyons prêts à répondre avec des convictions qui viennent de l'Évangile. Tu essaies de me convertir? En fait, je veux bien que tu connaisses Jésus. Je crois que tout le monde a besoin de connaître Jésus. Je crois qu'il n'y a personne plus important de connaître que Jésus. Après le Forum Veritas, je rentrais, après une soirée du Forum Veritas, je rentrais avec un ami musulman, et il m'a dit, tu sais Keith, je n'essaie pas de te convertir, je veux juste échanger, comprendre ce que tu crois, partager ce que tu crois. Je lui ai dit, tu es un ami, et je suis très content de continuer notre amitié. Mais en fait, moi je veux que tu sois chrétienne. Je suis pas donc chrétien, je veux bien que tu sois chrétien. Notre amitié ne dépend pas de cela, mais je prie que tu reconnaisses la vérité. Je prie que tous les deux, que nous connaissions la vérité. Répondons avec la courage, avec de la conviction, répondons avec l'amour. L'évangile va jusqu'aux extrémités de la terre et Dieu nous invite à faire partie de ce projet avec lui. Et soyons prêts à témoigner devant les riches et les puissants ainsi que devant les petits. Soyons prêts à partager notre témoignage qui explique la bonne nouvelle de Jésus. Soyons prêts à répondre aux questions et objections avec courage et avec amour. Je me suis rendu compte ce matin que demain, je vais assister à un mariage en Angleterre et je vais revoir beaucoup d'amis de la fac que je n'ai pas vus depuis des années. Et alors, je me pose la question, est-ce que je serai prêt à parler avec eux avec courage? Je peux très facilement dire, oui, je travaille à Paris, c'est chouette, je travaille avec une association qui travaille parmi les étudiants et c'est très bien. Alors, j'ai prié aujourd'hui et dans le train demain, je vais prier que Dieu m'aide à montrer du courage. Ah oui, j'habite à Paris et j'aide les étudiants à mieux comprendre la vie et à mieux connaître Jésus. Et prions que Dieu nous aide. Ça va être quelle sera la prochaine situation pour vous où vous pouvez témoigner de Jésus. Trois autres suggestions concrètes. Première idée, pendant les vacances de Pâques, pourquoi pas lire un livre comme Nouveau Départ, un livre qui explique très clairement la bonne nouvelle de Jésus pour que nous puissions bien expliquer la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi pas lire un livre comme Questions autour de Dieu, qui nous aide à savoir comment répondre aux objections que les gens nous posent. Troisième idée, pourquoi pas faire un camp d'évangélisation à Paris cet été, fin juin, au début septembre, pour mettre ces choses en pratique. Et qui sait, peut-être que vous avez donné un flyer à Luc Châtel aussi. Pour finir, la fin du chapitre 26, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Le verset 32, Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite? Je crois que c'est une réussite. Parce qu'avec son billet à Rome, Paul et la bonne nouvelle de Jésus continuent jusqu'aux extrémités de la terre. Et la fin du livre des Actes est également un petit peu bizarre. Venez avec moi à la fin des Actes, Actes 28, le verset 31. En fait, le verset 30. Ok, Paul est resté à Rome deux années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus avec une pleine assurance et sans obstacle. Il me semble que c'est un livre qui ne finit pas. Le livre finit avec Paul qui est toujours en train d'envoyer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est un livre qui ne finit pas parce que ce livre est toujours en train de se passer. Lorsque la bonne nouvelle de Jésus continue à aller jusqu'aux extrémités de la terre, même au travers les Jébusiens de Paris. Et donc, on pouvait lire Actes, chapitre 2487. Un jour, un étudiant qui s'appelle Jean-Marie partage son témoignage avec son ami de classe. Au chapitre 3218, l'étudiante qui s'appelle Anne a pu partager son témoignage avec son professeur parce que ça continue même aujourd'hui. Et nous avons choisi, je ne sais pas si vous savez, nous avons choisi de faire cette petite étude dans le livre des Actes parce que nous avons un projet qui arrive. C'est un projet qui s'appelle Luc Acts, ou I Love LA, ok. Et nous allons produire, ok, nous allons produire une version de l'évangile de Luc avec le livre des Actes, ok. Et nous allons imprimer 30 000, 60 000. Et nous allons donner ces évangiles à nos amis, à nos camarades de classe, à nos professeurs, à nos collègues, pour que la bonne nouvelle de Jésus va jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, chapitre 6258, verset 1, un étudiant de Paris donne Luc Acte à son pote qui devient chez lui et qui devient chrétien. Je vais prier. Père Céleste, si nous avons toujours des questions concernant la foi chrétienne et concernant Jésus, merci de nous donner des réponses. Père Céleste, si nous sommes chrétiens, merci de nous donner des occasions pour témoigner de toi. Et merci de nous utiliser dans ton projet d'envoyer la bonne nouvelle de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Thank you.